Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du repos, la sagesse de Dieu dans le repos. Alors il se trouve que j'avais vraiment besoin d'une révélation à ce niveau. Je croyais avoir compris ce que voulait dire le repos, sauf que cette année, très exceptionnellement, pour les vacances d'été, j'ai pris un mois. C'est vraiment été un grand luxe, la grâce de Dieu. J'ai réussi à prendre 30 jours de congé. Et je me suis dit, bon, là, ça va être super. J'étais fatiguée, j'étais contente. On avait plein de choses à faire, on avait plein de projets à faire. J'étais très, très occupée les 15 premiers jours. Et puis, la deuxième quinzaine, Pierre, mon mari, devait venir nous rejoindre. Donc, on avait ce temps en famille. Voilà. J'attendais vraiment avec impatience. Donc, on a passé de très, très bonnes vacances, si vous vous posez la question. Merci. C'était super. On a fait plein de choses pour nous. On a reçu des amis, on a rencontré des nouvelles personnes. On a eu des temps en famille vraiment précieux. C'était super, on a pu se reposer, on a pu faire plein de choses. Et du coup, on est redescendu, nous étions à la montagne, on est redescendu sur Nice. Je me disais super, je me sentais un peu coupable. Hein. Je me suis dit quand même, 30 jours de vacances, c'est exagéré quoi. Mais bon, voilà, j'en ai profité tout ça, on est redescendu sur Nice et puis voilà, on redémarre le rythme de la rentrée. Et puis, on est toujours très, très occupés. Hein. Le rythme que j'ai repris en septembre n'avait pas changé par rapport au rythme de juin. C'était le même, sauf que je m'attendais à prendre le truc à bras le corps parce que voilà, je m'étais bien reposée quand même. Et donc, on attaque la rentrée, donc on reprend l'école, le boulot, tout ça, tout va bien. Et il se trouve que cette année, j'ai des rendez-vous qui se sont rajoutés en plus dans mon agenda. C'est-à-dire que le soir, bon, après des journées bien remplies, j'arrivais à la maison vers 6 heures, donc voilà, tranquille, le petit goûter, les petits devoirs. Et le soir, normalement, j'étais libre. Sauf que cette année, on a eu des rendez-vous médicaux normaux, hein, rien de grave, le truc classique avec les enfants. Voilà, donc deux fois par semaine, rendez-vous chez le dentiste, ça nous arrivait super tard à la maison. Quand on aura terminé le dentiste, on va voir l'orthodontiste avec ça. Et puis, un soir en plus par semaine, le sport, parce que les gamins, ça fait du sport. Donc voilà, et donc voilà, le grain de sable dans l'engrenage tout d'un coup. Je disposais d'un temps qui était précieux, qui était calculé pour faire des choses bien claires, bien précises, et paf, ce temps-là a volé en éclats. Et donc je me suis retrouvée à réattaquer cette rentrée en étant toute perturbée parce que mon agenda avait changé, j'avais plus la maîtrise sur la chose, et puis surtout il me manquait des heures dans ma journée, des heures qui me servaient moi d'habitude. Donc je me disais, mais comment je vais faire? Et puis, au fur et à mesure que les journées ont commencé à passer, je me trouvais complètement épuisée. Je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas être épuisée. Je rentre de 30 jours de congé, quoi. Alors, soit mon agenda a changé, mais il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire, quoi. Et donc, je me suis d'abord bien lamentée sur mon sort. Je me suis bien plainte. Hein, voilà, on sait bien faire ça. Et puis, il y a un moment donné, quand même, j'ai eu l'étincelle. Je me dis, ah, peut-être qu'il faudrait que je me tourne vers Dieu. Donc, je me suis tournée vers Dieu. Je me suis dit, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, Seigneur, c'est sûr. Je m'en rends compte, je ne dois pas être dans un état d'épuisement à ce point-là au début du mois de septembre. Donc, il y a un truc que je n'ai pas compris. Montre-moi. En plus, le Seigneur me travaillait depuis quelques mois déjà sur le fait de prendre soin de mon corps, ce que je ne faisais plus depuis des années. J'avais quelques dérèglements dans mon corps que j'ai essayé. J'ai vraiment sincèrement essayé de les prendre à bras le corps et de me dire, bon, voilà, il faut régler ça. Je n'y suis pas arrivée, mais je n'ai pas perdu ma foi, parce que quand même, je suis une bonne chrétienne. Je me suis dit, un jour, le Seigneur va exaucer mes prières. Un jour, il va me délivrer de ça. Un jour, je vais aller mieux. Et donc, je me suis dit, bon, en attendant ce jour béni, Seigneur, je te remets ça, tu t'en occupes et moi, je m'en occupe plus. Je ne me suis plus du tout occupée de mon corps. Pour moi, c'était tranquille. J'avais remis ça au pied de la croix. Je me suis dit, il va s'en occuper. Et donc, je ne me suis pas occupée de moi. Ce qui n'est pas du tout sage. Certes, il faut remettre ça au pied de la croix. Mais ça n'est pas du tout sage de faire comme si le problème n'existait pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur me ramenait ça tout le temps, sans arrêt. Occupe-toi de ton corps, occupe-toi de ton corps, occupe-toi de ton corps. Donc, jusqu'à ce que je comprenne ça. Bref. Donc, au mois de septembre, je me suis en plus rajouté 2 créneaux horaires pour m'occuper de moi. Donc, du coup, mes journées ont vraiment rétréci, quoi. Mais c'était nécessaire. Je sentais que c'était juste. Bref, jusqu'au jour où je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose sur le repos que je n'ai pas compris. Il y a une révélation que je n'ai pas. Montre-moi. Et je vais vous livrer ici ce que j'ai découvert. Voilà, c'était une longue introduction, mais elle était nécessaire. Parce que on a eu Je me suis dit, mais est-ce que tu veux vraiment que je prêche ça, Seigneur ? La louange était pleine de foi, le message de Marc était plein de foi. Je me dis, là, je vais plomber l'ambiance avec cette histoire. Donc, il fallait vraiment que je vous explique pourquoi je vais vous parler du repos. Donc, si on prend Marc 6, verset 30-31, les apôtres rentrent d'un voyage missionnaire, je vous donne le contexte, et ils rentrent et vont vers Jésus. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est dire s'il y avait du travail, c'est dire s'ils étaient débordés. À peine rentrés de voyage, ils étaient déjà assaillis par des foules de gens qui gravitaient auprès de Jésus. C'est pourquoi Jésus, plein de sagesse, leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » En d'autres termes, il leur a dit « Écoutez, je comprends, vous avez bien travaillé, vous venez de rentrer de voyage, je comprends ça, je vais vous épargner d'avoir affaire à toute cette foule, on va se mettre à part et vous allez vous reposer pendant un moment. » Donc, en lisant la Bible, on se rend très très vite compte que Dieu met quand même très très en avant les valeurs du travail. Et ça s'est fait de manière très claire. Vous allez voir par la suite aussi qu'il condamne assez vigoureusement tout ce qui est contraire au travail, c'est-à-dire la paresse, l'oisiveté, qu'il assimile carrément à un manque de sagesse qui mène à la misère. C'est écrit, c'est biblique, on va voir le verset après. Et cette misère, on peut même l'assimiler à une misère physique, financière, une misère intellectuelle et spirituelle. Donc c'est vraiment pas rien. Donc prenons Proverbe 6, versets 6 à 11, et voyons ce qu'il dit de la paresse. « Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché ? Au temps de la récolte, quand cesseras-tu de dormir, pardon ? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment ? Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. » Donc en fait, celui qui ne travaille pas, le résultat, c'est que la misère le surprend comme un pillard. On peut aussi voir dans Timothée 5, 13, parlant des jeunes veuves, « Avec cela, comme elles sont oisives, elles cherchent à s'instruire en courant les maisons. Non contentes d'être oisives, elles sont bavardes et se mêlent de tout, parlant de tout ce dont il ne faudrait pas parler. » Donc on voit aussi que l'oisiveté mène au cancanage. La Bible donc parle d'une façon très négative, comme on vient de le voir, de la paresse et de l'oisiveté, et à contrario, par contre, très positivement du travail. Dans Éphésiens 4, 28, on voit un verset qui parle positivement du travail, « Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains, pour gagner honnêtement sa vie et ainsi avoir de quoi aider les pauvres. » Ou bien encore dans 1 Thessaloniciens 4, « Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie par vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà commandé. » Donc finalement, on s'aperçoit que le travail, c'est même un commandement de Dieu. C'est plus que de la sagesse, c'est un commandement de Dieu. Gagnez votre vie par vos propres mains, mettez-vous à travailler, occupez-vous de vos affaires, gagnez vos vies de vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà commandé. C'est un vrai commandement. Donc on a vu ce qu'il pense de la paresse, on a vu ce qu'il pense du travail, mais il faut aussi comprendre que Jésus parle du repos. Il y a des périodes de repos. Et est-ce que le repos n'est pas lui aussi un commandement, comme le travail peut l'être ? Dans Marc 6, 30, alors que les apôtres revenaient donc de ce fameux voyage, il les a écoutés raconter tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient vu, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes œuvres qu'ils avaient accomplies pour le royaume. Il les a écoutés et ensuite, il les a guidés vers un endroit de repos, un endroit désert, afin qu'ils puissent se reposer. Donc Jésus lui-même admet que après l'accomplissement d'une tâche, il faut qu'il y ait un temps de repos. C'est un temps nécessaire. Il venait de terminer une tâche. Une autre les attendait, puisqu'il y avait toute cette foule qui était là avec Jésus, qui commençait déjà à les assaillir. Et Jésus a dit « Stop, vous avez accompli cette tâche-là, avant d'en accomplir une nouvelle, prenons un temps de repos. » Il n'a pas dit « Allez prendre un temps de repos ». Il a dit « Venez avec moi, allons ensemble prendre un temps de repos. » Donc, s'il admet qu'un repos est nécessaire après l'accomplissement d'une tâche, il admet aussi que ça doit être fait d'une manière particulière. tout comme on se prépare pour aller travailler, se préparer pour aller prendre ce temps de repos nécessite une préparation, justement. Il faut que ce soit un endroit calme, il faut qu'on soit mis à part, mais il faut aussi qu'on soit accompagné de Jésus. Ça ne peut pas être un temps de repos où l'on est seul, seul face à soi-même, seul face à la nouvelle tâche, seul face au nouveau planning qui dérange les plans. C'est pas ça. C'est seul avec lui. Et c'est lui qui nous guide vers ce temps de repos. Alors, le besoin du repos, parlons-en. D'où vient-il ce besoin de repos ? Dieu lui-même s'est reposé le septième jour, comme on le sait et comme on peut le voir dans Genèse 2. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. Il fit ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Donc nous, quand on va travailler, qu'est-ce qu'on fait ? On crée quelque chose. Nous aussi, on crée quelque chose. Donc si lui s'est reposé de tout son travail de créateur, nous aussi, on a besoin de ce temps de repos dans notre travail de création. C'est donc de Dieu lui-même que vient ce repos. On dit qu'il s'est arrêté pour se reposer de tout son travail de création. En réalité, bon, c'est mon interprétation personnelle, mais je pense que ça n'est pas un vrai arrêt qu'il a fait dans les choses. Je pense qu'il s'est arrêté de tout son travail de créateur pour tout ce qui était extérieur. Et je pense que ce septième jour, il l'a créé. Quand il s'est reposé ce septième jour, il a parlé que c'était un jour béni, c'était un jour mis à part, c'était un jour qu'il a conçu pour l'homme, comme un cadeau pour lui dire, regarde, ce jour-là, comme Jésus avec les apôtres, ce jour-là, viens avec moi, je t'emmène, on va se reposer. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ben écoute, on va prendre le temps de se parler, on va regarder tout ce que j'ai créé pour toi, on va admirer ensemble la création, on va puiser des forces dans cette création, tu vas pouvoir me parler, je vais pouvoir te consoler, te réconforter, prendre tes fardeaux. C'est pour l'homme, c'est pour lui qu'il a créé ce jour de sabbat. Donc je pense que c'est un vrai cadeau pour nous. Parce que Dieu, il ne faut pas se leurrer, si Dieu s'est arrêté au bout de 6 jours de travail, c'est pas parce qu'il était fatigué. Dieu n'était pas fatigué. C'est pas non plus qu'il a eu, une petite flemme ou une envie de lézarder au soleil d'Éden. Il s'est dit, tiens, aujourd'hui il fait beau, je me repose, je vais un peu... Non, c'est pas pour ça. Il n'était pas fatigué. Dieu ne peut pas être fatigué. C'est pour nous, pour nous. C'est un temps d'arrêt pour nous, comme un cadeau. Mais c'est aussi une invitation, c'est surtout une invitation qu'il nous lance, une invitation à partager un moment de joie et de réjouissance avec lui. Voilà le plan idéal de Dieu en ce qui concerne le repos. Malheureusement, le péché étant passé par là, on a maintenant une vision distordue du repos. Je pense que le repos n'est plus perçu comme il devrait l'être. Pourtant, l'homme porte en lui ce besoin de repos. Si Dieu l'a créé et que nous sommes faits à son image, alors oui, ce besoin de repos, je veux dire, il est normal. Il est normal parce qu'il a été déposé en nous par Dieu. Mais je pense qu'on ne le saisit plus de la bonne façon. On en a eu la réflexion. Aujourd'hui, quand nous parlons de repos, de manière humaine, soit on se repose exagérément, au point d'en devenir paresseux et oisif, ce dont on met bien en garde dans Timothée, on l'a vu tout à l'heure, soit on refuse le repos pour nos corps, on se refuse ce temps de repos au point de devenir épuisé, malade, voire dépressif. Donc on a une vision qui est distordue de ce temps de repos. Et puis, le monde dans lequel nous vivons évolue aussi. Le monde dans lequel nous vivons, vous avez remarqué que les choses, d'une manière générale, dans tous les domaines, tout va de plus en plus vite. Tout va vite, le temps passe vite. On fait les choses vite, on s'habille vite, on va vite au travail, on rentre vite à la maison, on fait vite les courses, tout va vite. Les informations, tout va vite. Moi, je me souviens, les informations, quand on était jeune, qu'on vivait encore à la maison, les informations, bon, voilà, le 20h. Le 20h de TF1, d'Antenne 2 à l'époque, le 20h, c'était quelque chose dans une journée, quoi. Et puis, en particulier, le week-end, parce que le week-end, mes parents ne travaillaient pas, on avait vraiment le temps. Donc, moi, mon père, il se mettait devant la télé pour le 20h, et il n'était pas question qu'on s'agite et qu'on court dans tous les sens pendant les 30 minutes du 20h. Le 20h, c'était 30 minutes de silence presque religieux, où mon père regardait les infos, mais bon, qu'est-ce qu'on avait comme source d'information à l'époque ? Je veux dire, quelqu'un qui travaillait toute la journée, mon père, en plus, était... travaillait très très tôt le matin, donc il n'avait pas le temps de lire le journal. Donc vraiment, le 20h, c'était quelque chose d'important. Et donc, ce 20h, ben voilà, c'était une des rares sources que nous ayons de nous tenir au courant. Et donc, pendant 30 minutes, mon père écoutait les nouvelles du monde, les nouvelles de la France, et il n'était pas question de broncher à cette époque-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez être tenu informé de quelque chose? Ben, c'est simple, hein, vous zappez, tac, tac, tac. Et alors là, vous tombez sur des chaînes, dont je ne citerai pas le nom. Vous tombez sur des chaînes où, en plein écran, vous avez un présentateur qui vous parle de quelque chose, d'un sujet. En plus, c'est toujours tourné à la de façon catastrophique. Donc, on vous parle en plein écran d'un sujet. En dessous, on a un bandeau qui passe en continu et qui vous parle d'un autre sujet. Et en général, une fois sur deux, en haut à gauche ou en haut à droite, il y a encore un troisième écran, plus petit, dans lequel il y a quelqu'un d'autre qui parle d'encore autre chose. Mais vous imaginez ce que votre cerveau se prend dans la tête? C'est ahurissant. On nous balance trois informations qui viennent de trois sources différentes, avec trois personnes différentes, souvent des sujets qui sont aux antipodes, et il faudrait qu'on intègre ça. Eh bien, là où il fallait 30 minutes, c'est simple, là où il fallait 30 minutes à mon père pour se tenir au courant avant, maintenant il vous faut quoi? 3-4 minutes? En 3-4 minutes, vous avez saisi ce qui se passe dans le monde entier. Et alors, ce cas, le meilleur, c'est que si vous faites ça dans la journée, ben, 3-4 minutes, mais ça ne s'arrête même pas la nuit. C'est-à-dire que même la nuit, vous êtes bombardé de toutes ces informations qui viennent de plein de sources. Enfin, c'est ahurissant, ahurissant. Tout va super vite, super vite. Alors, on croit que c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Un autre truc qui m'est revenu il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, les plus jeunes ne seront peut-être pas, ceux qui sont de ma génération s'en rappelleront sûrement, vous rappelez du discours sur les 35 heures? Hein? Les 35 heures, quand ils ont prévu de mettre ça en place? Des conversations ahurissantes, des débats à la télé. Comme ça? Ok. Je me rappelle de ces débats à la... Voilà, ça ne marche pas. Merci. Voilà, donc, à la mise en place des 35 heures, on nous disait, il y avait carrément des débats qui duraient des heures, et ils nous disaient, comme ça? Magnifique. Et donc, on nous disait, voilà, avec les 35 heures, ça va être super et tout, vous allez avoir plein de temps libre. Et il y a carrément des gens, des intellectuels, hein, qui se sont interrogés sur le truc, mais oh, c'est vrai, on va avoir plein de temps libre, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps libre, quoi? Il y a des gens qui ont débattu à la télévision pour se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que les Français vont faire de tout ce temps libre? Donc, on nous a fait miroiter des week-ends à rallonge, des temps en famille extraordinaires, des activités supplémentaires pour les gamins, des activités supplémentaires pour les adultes. Enfin, bref, c'était la panacée, les 35 heures. Il y en a beaucoup qui sont aux 35 heures ici. La majorité, ceux qui travaillent en France, vous êtes aux 35 heures à peu près. Vous avez vu un changement dans votre vie? Un vrai changement? Est-ce que vous avez plus de temps? Non. Non, c'est bizarre, hein? Personne n'a plus de temps. C'est-à-dire que demain matin, on vous ferait travailler 10 heures de moins. Je suis sûre qu'en l'espace de 2 mois, histoire de réorganiser le planning, en 2 mois, vous êtes toujours aussi occupé. Ça n'est pas de ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. On n'a pas besoin de trucs pour gagner du temps. On n'a pas besoin de gadgets pour gagner 5 minutes. Ça n'est pas de ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est du vrai repos. Un vrai temps de repos tel que Dieu l'entend. À la croix, on oublie souvent, on sait qu'à la croix, il nous a racheté des maladies, de la pauvreté, etc., etc. Mais à la croix, il nous a aussi racheté de la fatigue, il nous a aussi racheté du manque de repos. Il a racheté notre repos, il a racheté le repos. Nous avons droit au même repos que celui qu'il a proposé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce genre de repos-là, nous y avons droit. Pas ce repos tronqué, ce semblant de repos que nous avons une fois le week-end ou une fois de temps en temps pendant les vacances. Pas ce genre-là, le vrai repos. Le vrai repos qui permet de communier avec lui. Le vrai repos qui nous permet de s'émerveiller sur toute sa création, de recharger nos batteries, de régénérer nos corps, parce que nos corps en ont besoin, de régénérer nos esprits et nos âmes. Nous vivons une période chaotique. C'est une certitude. Et le truc, c'est que ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça marche, là? Ouais. Ça n'ira pas en s'améliorant. Les temps sont de plus en plus chaotiques. Donc, Nous avons plus que jamais besoin de périodes de repos. Nous avons plus que jamais besoin de périodes de calme afin de pouvoir puiser nos forces et notre résistance dans la parole de Dieu, dans sa présence. Comment pourrions-nous espérer résister aux turbulences sinon? Alors, un autre point, le sabbat, ça va? Ouais. Le sabbat est-il pour les chrétiens ou seulement pour les juifs? Parce que par contre, si nous on a une vision distordue du repos, on peut constater que les juifs, eux, ont conservé le système du Shabbat. Donc, est-ce que le Shabbat, c'est juste pour les juifs? Ou est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut prétendre à respecter et à vivre sous les règles du Shabbat? Si on regarde dans Matthieu 12, verset 9, on a une réponse très, très claire. C'est l'anecdote de l'homme à la main paralysée. Jésus partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens voulaient accuser Jésus, c'est pourquoi ils lui demandèrent « Notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit « Si l'un d'entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là ? Un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton, donc notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. » Donc oui, le sabbat est pour les chrétiens, au même titre que pour les juifs. Nous avons droit à ce temps de repos. Par contre, ce que nous ne faisons pas, et ce que nous pourrions faire aussi, c'est le préparer, l'attendre et le vivre comme le vivent les Juifs. Et là, il y a quelque chose que nous devons apprendre d'eux, de cette révélation qu'ils ont sur le Shabbat. Donc oui, nous sommes concernés par ce jour de repos particulier. Oui, nous devrions respecter cette journée sainte. Cette journée est toujours la journée que le Seigneur s'est réservé afin de la passer avec nous. Pas qu'avec le peuple juif, avec nous. Alors maintenant, on va prendre la chose sous un autre angle. On va parler de votre cerveau. En ce moment, je lis un livre que m'a conseillé le pasteur, qui est excellent pour ceux qui lisent l'anglais. C'est un livre sur le cerveau du docteur Caroline Leaf. Alors, elle a... Donc c'est une scientifique, hein. C'est une scientifique et une scientifique chrétienne. Donc elle apporte une vision scientifique confirmée par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle a un point de vue très très intéressant. Et elle dit, saviez-vous qu'à l'origine votre cerveau n'a pas été créé pour encaisser tout ça, encaisser tout ce rythme, toutes ces choses, toutes ces... On n'a pas été créé comme ça, pour ça. En lisant ce livre, j'ai fait une grande découverte que j'ai partagée avec mes copines femmes. J'ai fait une découverte, c'est que l'homme était monotâche. Voilà. Alors vous ne devriez pas rire. L'homme était monotâche. Donc moi, je le dis souvent, hein, je me moque de mon mari, je me moque de mes amis hommes en disant ouais, « Vous êtes monotâche, les femmes sont multitâches, vous voyez tout ce qu'on gère dans une journée, vous seriez incapable de le faire, vous êtes monotâche, nous on est multitâche. » D'accord ? Sauf qu'en réalité, c'était une vision erronée. Je suis désolée, mesdames, je suis désolée, messieurs, de mettre vos gains de vous. Mais en réalité, si l'homme est multitâche et monotâche, c'est que c'est biblique et que Dieu l'a voulu comme ça. Et quand je dis l'homme est multitâche et monotâche, je parle de l'homme en général, l'être humain, donc l'homme et la femme. Nous sommes des êtres monotâches. Parce que voulu comme ça par Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Marc ? Voilà, exactement. Exactement, une chose à la fois. Dans Proverbe 4, et il y a une très bonne illustration de ça dans la Bible. Dans Proverbe 4, versets 20 à 23, c'est vraiment une preuve éclatante de ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils, sois concentré totalement sur mes paroles, c'est ça que ça veut dire. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes paroles, ça veut dire concentre-toi. Concentre-toi. Quand je dis quelque chose, ne te laisse pas parasiter par autre chose. Concentre-toi sur ce que je te dis. Concentre-toi sur ma parole. Que tes oreilles ne soient pas en train d'écouter de la musique, quelqu'un d'autre qui part ou la télé. Tes oreilles, ton attention. Tous concentrés sur une seule chose, ma parole. Quand je te parle, écoute pleinement ce que je te dis. Le verset 21 nous dit, ne laisse pas tomber dans l'oubli. Comment peut-on ne pas laisser dans l'oubli une parole que l'on entend ? Quelle est la meilleure façon de le faire ? De l'apprendre par cœur. Si on ne veut pas oublier quelque chose, il faut l'apprendre par cœur. On est obligé. Donc, apprenez par cœur. Quand Dieu vous parle, quand il vous montre des versets, quand vous méditez sa parole, apprenez ça par cœur. C'est la seule façon de ne pas les oublier. Mais garde-les au plus profond de ton cœur. Donc, apprendre par cœur, c'est une chose pour ne pas les oublier. Méditer cette parole jusqu'à ce qu'elle descende dans vos cœurs, parce que pour faire entrer une parole dans votre cœur, il faut la méditer, il faut la parler, il faut la mâchouiller longuement afin qu'elle descende dans votre cœur. Donc, garde-les au plus profond de ton cœur, c'est-à-dire médite-les. Verset 22, ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Ah, mes corps seront donc en bonne santé. Verset 23, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. En fait, ta vie dépend de ce que tu penses. C'est aussi simple que ça. Tel il est, tel il pense. Donc, le fait d'être multitâche, on voit bien que c'est un mythe. C'est totalement impossible. Si on veut vivre comme ça, si on veut fonctionner, si on veut faire fonctionner notre cerveau tel qu'il a été prévu, c'est-à-dire en étant concentré sur ce qui se passe, totalement, on ne peut pas être multitâche. Je ne vois pas comment vous pourriez être totalement concentré sur une tâche et espérer en faire une autre à côté. C'est impossible. Je veux dire, quand on est concentré, ça veut dire que notre esprit, notre intelligence est concentrée sur ce truc. Donc, vous voulez faire quoi avec l'autre main? L'autre main a besoin d'être commandée, d'être dirigée. On ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. C'est impossible. Et c'est tant mieux. Dieu nous a créés comme ça. Alors oui, mesdames, vous pouvez me dire, « Ah, mais moi, je fais 50 trucs à la fois. » Non, c'est une illusion qu'on fait 50 trucs à la fois. On fait plein de choses dans la journée, en général, très, très vite. Et au bout du compte, si on est honnête, très, très mal. Non, mais c'est une femme qui vous le dit, une maman avec deux enfants qui travaille, qui a les mêmes impératifs que vous. Je vous le dis. Je fais plein de choses dans une journée, mais je les fais vite et je les fais mal. C'est une réalité. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors moi, ça me dédouane quand même. Je me sens moins coupable du coup. Je me dis finalement, c'est pas de ma faute. Dieu m'a pas créé pour être comme ça. Donc une fois qu'on en prend conscience, on peut rectifier. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On passe d'une activité à une autre très très rapidement, tout le temps, toute la journée, tous les jours. C'est ce qu'on fait. Et c'est ce mode de fonctionnement-là, mesdames, faisons attention quand même, parce que ce mode de fonctionnement-là, quand c'est un style de vie, et chez quasiment toutes les femmes de cette assemblée, je sais que c'est un style de vie, même si je ne vis pas chez vous, je vois bien votre rythme de vie, je vois le rythme des femmes en général. Je veux dire, ça a des conséquences. Un jour ou l'autre, il va falloir se poser et regarder les conséquences que ça a. Et ça a deux conséquences notamment. C'est que notre capacité d'attention est amoindrie, et elle diminue dans le temps, donc attention. Parce que quand vous voudrez vous concentrer sur quelque chose, maintenant, ça risque de devenir plus difficile et vous ne pourrez le faire que pour de plus en plus courtes périodes. Donc ça a des vraies conséquences physiques. Et la qualité de notre travail est amoindrie, ça on le sait. D'accord ? Bon, je suis désolée. Mais Dieu nous a créés pour que nous pensions à une seule chose à la fois et il y a une raison à ça. De manière concentrée, en y prêtant attention, en écoutant attentivement. Voilà la façon dont nous devrions fonctionner. Pourquoi nous a-t-il créé monotâche? Alors, dans l'idéal, il nous a créé monotâche parce que nous devrions pouvoir conserver en permanence ce dialogue intérieur que nous avons avec lui. On a tous un dialogue intérieur. J'espère qu'on en a tous un. On a tous un dialogue intérieur avec Dieu, mais c'est normal. Il a créé notre cerveau comme ça. Et vous verrez plus tard, enfin, pour ceux qui liront ce livre, en anglais, je vous souhaite de pouvoir le lire, c'est une révolution. Il est dit dans ce livre, et c'est prouvé par des études scientifiques, que lorsque nous mettons notre esprit en mode méditation, c'est-à-dire lorsque nous méditons la parole, lorsque nous prions, lorsque nous prenons un temps pour communier avec Dieu, ils ont fait des études en mettant des électrodes sur le cerveau, je vous la fais courte et simple, et en fait, nous atteignons pratiquement notre plein potentiel lorsque nous communions avec Dieu. C'est pas extraordinaire, ça? Donc, vous voyez qu'on a un dialogue permanent avec Dieu. Après, il est plus ou moins intense, ce dialogue. D'accord? Il y a des gens qui ont conscience plus ou moins de ce dialogue intérieur qui est constant. Il y en a qui en ont moins conscience. Il y en a qui l'utilisent plus, d'autres moins. Et puis, il y a surtout tous ceux qui sont complètement parasités par des multitudes d'activités dans la journée. Et dans ces cas-là, ce dialogue-là, et je me suis rendu compte de ça pour moi, malheureusement, je me suis rendu compte que le dialogue était bien souvent interrompu et pendant de plus en plus longues périodes dans la journée. Et je vous le dis devant mon pasteur. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et si je me suis rendu compte de ça, je suppose que d'autres sont dans le même cas que moi. D'accord ? Alors, vous me direz, on ne peut pas être concentré sur quelque chose et en même temps parler à Dieu parce que voilà, on est monotache, on ne peut pas faire de trucs en même temps. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des périodes de temps où nous sommes totalement donnés à ce dialogue intérieur. Et puis, il y a des périodes de temps où, par exemple, quand on travaille dans la journée, certes, on ne peut pas parler toute la journée à Dieu, mais vous savez au plus profond de vous quand votre esprit est connecté à Dieu ou pas. Et c'est de ça dont il s'agit. Il y a ce dialogue intérieur qui est vivant, constant, et qu'on peut mettre en activité quand bon nous semble. Mais on est tous soumis aux règles de la vie quotidienne, avec le travail, les gamins, tout ça. Bon, ce rythme-là. Mais on sait quand on est connecté ou pas. Moi, je sais, quand je suis concentrée sur ce que je fais au travail, je sais que je suis quand même connectée. Et puis, il y a des moments où je sais que je ne suis pas du tout connectée. Et c'est ça. L'important, c'est de se rendre compte de ça. Mais on est à notre plein potentiel quand on est capable de maintenir vivant ce dialogue continu. Et si ça n'est pas un dialogue, c'est au moins une connexion. Une connexion à quoi ? Une connexion à Dieu, à notre source. Parce que notre cerveau a été créé pour ça. Ça va, c'est pas trop compliqué ? Je vais continuer à vous parler un petit peu du cerveau. Dieu a créé notre cerveau de sorte que la plus grosse partie de son activité se trouve dans le subconscient. D'accord ? C'est-à-dire au niveau de l'esprit, là où se trouve notre esprit. Et c'est dans notre esprit que se trouve l'endroit où tout se décide. C'est super intéressant. Toutes les prises de décision se font au niveau de l'esprit. C'est aussi dans notre esprit que l'activité est en action 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'activité de notre esprit ne cesse jamais. C'est-à-dire que même quand vous dormez, votre esprit continue de fonctionner. Votre esprit est en permanence connecté à cette source-là, qui est Dieu, pas autre chose. C'est au niveau de l'esprit que nous faisons tous nos choix, que nous construisons nos plans, que nous faisons le tri dans nos pensées, que nous retenons ce qui est utile ou inutile, dangereux pour nous ou pas dangereux. Toutes nos décisions prises durant la journée, donc durant notre veille consciente, d'accord ? Toutes les décisions prises durant la journée, tous nos choix résultent de l'analyse qu'en a fait notre esprit durant notre temps de repos. D'accord ? Donc si nous n'avons pas ce temps de repos, on a un gros problème. Notre esprit ne peut pas analyser tout ce qui se passe. Nous avons donc besoin vraiment de ce temps de repos et de comprendre toute la sagesse qu'il y a dans le psaume 46, 11. Arrêtez, dit-il. Arrêtez pas, dit-il. Arrêtez, crie-t-il. Et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez, cessez tout, déposez les armes, faites une pause. Reconnectez-vous à moi, voyez que je suis Dieu et agissez en conséquence. Psaume 46, 11. Stoppez tout, déchargez-vous sur moi, reconnectez-vous à la source. Votre cerveau a besoin de repos. Votre esprit est connecté en permanence à cette source et lui ne cesse jamais de fonctionner. Votre cerveau, lui, par contre, a besoin d'un temps de repos. Il a besoin d'un temps de repos afin de pouvoir avoir le temps de comprendre ce que votre esprit sait déjà. Il lui faut un temps à votre cerveau pour analyser, trier, assimiler, ordonner toutes les informations qu'il a reçues durant toute la journée. En fait, votre esprit sait déjà ce que votre cerveau ne sait pas encore. Et pour permettre une adéquation entre votre cerveau et votre esprit et votre cerveau, il faut que votre cerveau ait un temps de repos. Il en a physiquement besoin. D'accord ? Ça va, c'est pas trop... Ok. Donc, d'un point de vue biblique, ça c'était un point de vue un peu scientifique, d'un point de vue biblique, que dit la Bible sur les effets du repos ? Tout d'abord, dans Hébreux 4, verset 9, il y a donc un temps de repos, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce temps de repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Hébreux nous parle d'un repos d'abord réservé au peuple de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a un repos spécial, une qualité de repos qui nous est réservée à nous, croyants. C'est-à-dire que cette qualité de repos que nous avons à disposition, les non-croyants ne peuvent même pas en avoir une idée. C'est quand même un gros avantage. Donc oui, il y a ce type de repos qui est réservé à ceux qui croient et qui reconnaissent que Jésus est notre sauveur. Et ne pas se donner à ce temps de repos, ben, écoutez, la Bible le dit clairement, c'est un acte de désobéissance. Donc non seulement le repos est un commandement, nous en avons besoin, on l'a vu, mais c'est carrément de la désobéissance que de dire « Non, non, je continue à travailler, je ne me repose pas. Non, non, je ne prends pas ce temps de méditation. Non, non, je ne me reconnecte pas à la source. Je continue, je continue. » C'est de la rébellion, c'est de la désobéissance. Donc soit on fait confiance au Seigneur, soit on ne lui fait pas confiance, c'est aussi simple que ça. Soit on lui fait confiance, on prend ce temps de repos, soit on ne lui fait pas confiance, on refuse ce temps de repos et on continue à s'agiter dans tous les sens, avec les conséquences que ça a. Quels sont les effets du repos en Dieu ? Donc, je vais vite vous les lire parce que j'en ai relevé pas mal. Dans Exode 33, 14, l'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dans Psaume 23, il est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. » Psaume 62 « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. » Dans Psaume 116 « Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. » Proverbe 29 « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est clair, c'est super clair. Alors, voilà, effectivement, il n'est pas marqué que on trouvera le repos de Dieu sur une plage des Caraïbes ou avec une semaine au ski. Voilà, non, c'est nettement, voilà. Mais, voilà, c'est cette qualité de repos-là qu'on peut trouver en Dieu. Et on ne peut pas le trouver ailleurs. Ne cherchons pas à partir au bout du monde, ne cherchons pas, cessons de râler. Moi, en ce qui me concerne, je n'arrêtais pas de râler. Je me disais, non, à quoi bon, ça ne sert à rien, je suis fatiguée. Non, je regardais dans la mauvaise direction. J'aurais pu passer des journées entières chez moi, au lit, à me reposer. Je n'aurais jamais pu récupérer les forces dont j'avais besoin. C'était impossible, impossible, parce que je ne regardais pas dans la bonne direction. Par contre, ce que nous venons de voir, c'est qu'en Dieu, qu'est-ce qui nous procure ce repos ? On vient de le voir dans les différents versets. Il nous procure en Dieu, on a le calme, la confiance, la force, la tranquillité, la protection. Il nous fait du bien. Il est mon rocher, ma forteresse. Avec lui, je ne chancelle plus. Il me fait reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Jésus marche avec moi et je peux me décharger sur lui de tous mes fardeaux. N'est-ce pas de cela dont nous avons tous besoin, de cette qualité de repos-là ? A contrario, regardons ce que provoque le manque de repos. Le manque de repos provoque l'irritabilité. Moi, j'en étais là. Le manque de concentration, c'est ce qui nous pend au nez, fatalement. Fausse notre vision de la réalité. C'est vrai que quand on est fatigué, moi, à une période où j'étais fatiguée, il n'y a pas si longtemps que ça, je remettais en cause mes propres convictions parce que j'avais une vision distordue. Vous comprenez ? Ça fausse la réalité. On voit des choses qui ne sont pas quand on est fatigué. On a une perte de réactivité physique, une perte de réactivité mentale, une perte de relationnel. Quand on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur, on n'a pas envie de voir les copains, copines, on sort moins. Donc, les relations sociales en pâtissent aussi. On a un surcroît d'émotivité. Bon, nous, les femmes, on connaît bien. Au moindre truc, paf, on fond en larmes et personne ne sait pourquoi. Un état de stress, et on sait combien le stress est dévastateur dans la santé. Des douleurs musculaires, une diminution du système immunitaire. Ça nous pousse à chercher des substituts chimiques, etc., etc., etc. On pourrait encore avoir une liste très, très longue des méfaits du repos, du manque de repos. Alors que dans le repos en Dieu, on a vu tout ce que ça nous apporte. Chez les Juifs, parce que j'ai beaucoup regardé le Shabbat chez les Juifs, parce qu'il semble qu'ils aient une meilleure vision que nous sur le repos. Donc chez les Juifs, j'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs, mais il y a à peu près 70 jours fériés en plus des Shabbats par an. C'est énorme, hein ? Et tous sont rattachés à des fêtes religieuses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont toutes des fêtes qui sont consacrées à Dieu. Ce sont des fêtes, des jours de repos, où ce jour-là, certes, on ne travaille pas, on est en repos, mais qu'est-ce qu'on fait ? On célèbre l'Éternel. Ce ne sont pas juste des fêtes comme ça pour le fun, pour se reposer. Non, ce sont des fêtes qui lui sont consacrées, comme le jour du Shabbat. Donc, je vous passe toutes les fêtes. Il y a les fêtes du pain sans levain, etc., etc. Toutes les fêtes juives, on en connaît pas mal. Donc, on doit prendre du repos. Et prendre du repos, pourquoi ? Pour éviter notamment deux dangers principaux, concrètement. Éviter le trop de travail. Aucun homme ne peut travailler bien longtemps sans repos, c'est impossible. Et aucun homme chrétien ne peut vivre la vie qu'il est appelé à vivre en Christ s'il ne s'accorde pas un temps de repos avec son Dieu. Comment peut-on se décharger de nos problèmes sur Jésus si on ne sait pas qui il est ni où le trouver ? C'est important. Comment peut-on travailler pour Dieu sans la force de Dieu ? Et c'est aussi valable pour la grâce. Comment peut-on travailler pour Dieu sans la grâce de Dieu ? Comment peut-on recevoir cette force et comprendre cette grâce si nous ne nous mettons pas à part pour rechercher sa présence ? Et c'est ce à quoi est consacré ce jour de repos normalement. On doit prendre du repos pour éviter le trop de recul. Alors je me rappelle, il y a une phrase qu'a dit le pasteur qui m'a marquée. Je me rappellerai toujours. Elle a dit un jour, elle déteste l'expression prendre du recul. Pourquoi ? Parce que quand je prends du recul, dans je prends du recul, il y a recul. C'est aussi bête que ça. Et ça m'a ce jour-là, cette phrase, elle m'est restée. Je me suis dit, mais c'est vrai, elle a raison. Prendre du recul, on dit tout ça. Oh, j'ai besoin de prendre du recul, je suis fatiguée, il faut que je prenne du recul. Mais quand on prend du recul, on recule. C'est-à-dire qu'on fait des pas en arrière. Et on ne rattrape pas ces pas en arrière. Parce que pendant que vous faites deux pas en arrière, le monde continue de tourner. On ne rattrape pas ce recul-là. Donc, ne prenons pas des jours de repos. Ne nous mettons pas en repos juste pour prendre du recul. Prendre du recul, c'est reculer, point barre. Une autre chose, l'étude. Parce qu'aussi, on peut prendre un temps de repos pour étudier. Étudier la parole. D'accord ? C'est bien d'étudier la parole. Prenons un temps de repos pour étudier la parole. Mais si l'étude de la parole n'est suivie d'aucune action, ce n'est pas un temps d'étude. C'est juste un temps de lecture. D'accord ? Ça ne sert à rien d'aller de dire « je vais prendre un temps de recul, je vais prendre deux jours de congé, je vais aller étudier la parole ». Ça ne sert à rien d'aller s'enfermer en haut d'une citadelle et dire « voilà, pendant deux jours, je vais me consacrer à Dieu, à l'étude de la parole, etc. » Ça ne sert à rien si en redescendant de la citadelle, vous ne faites pas quelque chose avec. Ça doit se voir, ça doit se voir. Ce que vous avez étudié pendant ce temps-là doit se voir immédiatement. Un autre point, on ne doit pas chercher la communion avec Dieu pour éviter la communion avec les gens. C'est bien la communion avec Dieu. Elle est nécessaire et c'est même la première chose à laquelle il faut se consacrer. Mais elle ne doit pas remplacer la communion avec les gens. La communion avec Dieu doit nous permettre d'être mieux préparés à la communion avec les gens. Mais l'un ne peut pas remplacer l'autre. Ce n'est pas une fuite, la communion avec Dieu. Elle ne doit pas être une fuite, en tout cas. Le rythme de la vie chrétienne oscille entre des moments, enfin doit osciller entre des moments de communion secrète avec Dieu et des moments de communion publique avec les hommes. Ça, c'est la juste balance. Prendre du recul ne doit pas être une excuse pour ne pas revenir. Ok ? Il existe deux types de repos, vous avez bien compris. Il y a le repos physique et le repos spirituel. Alors, le repos physique, pourquoi ? Le repos physique parce qu'il rafraîchit le corps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pendant nos temps de repos, le week-end ou pendant les vacances, essayer d'avoir une bonne qualité de sommeil. Peut-être qu'il faut changer la literie, se coucher plus tôt, boire moins de café. Il y a plein de trucs, prendre du magnésium. Je ne sais pas. Il faut se pencher sur la qualité de nos nuits. Si elles ne sont pas de bonne qualité, il faut se poser la question. Pourquoi sont-elles de mauvaise qualité ? Il y a l'après-midi, alors il y a les pro-siestes et les pas pro-siestes. Moi, je suis très sieste. Donc voilà, quand vous avez l'occasion, faites une sieste l'après-midi. Pourquoi pas, si vous avez le temps. Ça peut être une bonne façon de récupérer. Prévoyez des vacances. Prévoyez des vacances, des voyages, des dîners avec des amis, des sorties, une promenade en bord de mer, une promenade en montagne. Tout ça, le repos, ça ne veut pas dire rester chez soi, ne rien faire et se couper du monde. Le repos, c'est un temps de repos où on est coupé de notre activité habituel, on fait quelque chose de différent et on fait quelque chose d'un peu plus relax, un peu plus pour soi, disons, pour soi, pour sa famille. Prendre rendez-vous avec soi-même, ça c'est un type de repos qui est important chez une femme. Bien souvent, moi j'ai repris rendez-vous avec moi-même depuis septembre. Deux fois par semaine, je fais du sport. Voilà, je m'occupe de moi, j'ai repris rendez-vous avec moi-même. Dieu m'a rappelé que j'avais un corps et qu'il fallait que je m'en occupe, donc je m'en occupe. Voilà, ça peut passer par prendre rendez-vous chez un coiffeur, prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, prendre rendez-vous avec une copine pour aller boire un thé. Prenez rendez-vous avec vous-même, faites-vous quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, une fois n'est pas coutume, occupez-vous de vous. C'est sympa, ça fait partie des périodes de repos. Les bénéfices de tout ça, ben, en général, il y a moins de stress, il y a un meilleur contrôle de son poids. Alors, moi, j'ai trouvé un truc hallucinant. Je me suis rendu compte, d'ailleurs j'en ai parlé avec les copines, je me suis rendu compte qu'après une séance, donc moi je fais du yoga, je me suis inscrite au yoga, mais c'est un yoga dépouillé de tout le côté youhou, hein. Non, c'est un truc très soft, très doux, c'est un mélange de yoga, de pilates, tout est centré sur la respiration, donc c'est vraiment quelque chose de très doux mais qui n'a rien à voir avec les chakras, rien à voir. C'est bien. Donc, je me suis rendu compte qu'en ayant fait des exercices de gym douce, de relaxation, je sors de la salle de gym, j'ai perdu une taille de pantalon, quoi. Je vous assure, c'est flagrant. Comme quoi, quand on se déstresse, on a un meilleur contrôle de son poids. Je l'ai vu. Donc, je me dis, voilà, si en reprenant possession de son corps, eh ben, on peut lui faire du bien. Ça se voit, j'en ai eu la preuve. J'avais perdu une taille de pantalon. Et c'est systématique. Chaque fois que je vais en cours, c'est vraiment bizarre. Bref. Prendre rendez-vous avec soi-même. Prendre rendez-vous pour un massage, un coiffeur, une virée shopping, un café avec une copine. Donc, moins de stress, meilleur contrôle du poids, meilleure mémoire, capacité intellectuelle accrue et meilleure santé en général. D'accord ? Le repos spirituel. Donc, le repos spirituel pour rafraîchir l'esprit. Comment fait-on ça ? Ben, par un moment quotidien de dévotion ou de lecture biblique. Des moments particuliers dédiés à la prière ou à la méditation, c'est-à-dire qu'on peut se dire, ben, tiens, je vais prendre un temps particulier, ça ne va pas être un temps d'étude, ça va être un temps de prière, ou je vais méditer sur tel verset parce que il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne dans ce domaine-là. Tout ça, ça permet de rafraîchir l'esprit. Les lectures qui boostent notre foi, des lectures, la table de la boutique en est pleine, ou un film du même genre. Et se rappeler en tout temps le verset de Matthieu 11, 28, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. » Vous ne trouverez pas le repos, effectivement, chez le coiffeur. Ça va contribuer à vous faire vous sentir mieux. Mais le seul qui donne le repos, c'est Jésus. Se décharger sur lui procure une paix qui permet le vrai repos. Il n'y a que là. Et nous devons... Et c'est ce que nous devons faire pour recevoir cette paix et entrer dans le repos. Venir à lui. C'est aussi bête que ça. On ne doit pas faire des galipettes, grimper au rideau, courir un 100 mètres. Non, il faut juste venir à lui. C'est aussi simple que ça, quoi. Ça n'est pas compliqué. Venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est pas compliqué. Les bénéfices de ça, un rafraîchissement intérieur, renouvellement de la paix dont nous avons besoin, une relation plus intime avec Dieu. Donc, c'est tout bénéfice. L'esprit et le corps ont tous les deux besoin de ces temps de repos. L'esprit et le corps, les deux vont ensemble. Alors, quelques suggestions pratiques pour vous aider. Dégagez du temps. D'accord ? Alors, pour ceux qui ont des agendas, vous marquez tous vos rendez-vous, les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous de travail. Marquez vos temps de vacances, marquez vos temps de repos, marquez vos temps, vos rendez-vous pour vous. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez votre agenda, tous les jours, vous vous dites « Ok, aujourd'hui, j'ai tout ça. Ah ! Là, je me suis mis une heure pour moi. Cool. » Du coup, le matin, la journée est différente. Quand vous avez des semaines où la semaine est vraiment très, très chargée, marquez-vous les week-ends. Il y a toujours une case samedi, dimanche, mais il n'y a jamais rien d'écrit dedans. Marquez des choses. Marquez ce que vous avez prévu de faire le week-end. Vous allez attendre. Il va y avoir une vraie expectative de ce temps de repos-là. Comme les Juifs. Les Juifs, ils attendent le Shabbat. Ils attendent, ils s'y préparent. Nous, on ne se prépare à rien. Attendons ça. Marquons des choses dans ces cases vides. Surtout mettez les rendez-vous que vous vous êtes fixés pour vous. Chacun pourra aménager son temps à un moment qui lui convient le mieux, comme le faisaient les personnages de la Bible. Là, j'en ai relevé quelques-uns. Je vous l'ai dit vite fait. Isaac aimait se promener le soir dans la campagne. Donc lui, voilà, c'était son truc. Son temps de repos était là. David et Daniel aimaient le matin, l'après-midi, le soir, c'était indifférent. Jésus, lui, on l'a maintes fois vu dans les Écritures, il préférait le matin très tôt. C'était son moment, le matin très tôt. Et puis le Shabbat, qui est un temps hebdomadaire, et c'est pas un hasard. Dieu avait prévu dès l'origine notre rythme de travail. C'était 6 jours de travail, 1 jour de repos. Les Juifs ont bien compris ça. Les Juifs ont bien compris ça et donc ils conservent ça, ils conservent le Shabbat. D'accord ? Donc, faisons-en une fête, attendons, écrivons des choses dans nos cases vides de sorte que nous attendions ces temps de repos. Voilà. Je vais terminer là. Qu'est-ce que je vais vous donner ? Pour terminer. Voilà, expérimenter le repos de Dieu, ça n'est pas juste aller au bout de ses forces. Ça n'est pas juste s'épuiser durant une période de travail plus ou moins longue. C'est pas ça. Parce qu'au bout du compte, on va s'écrouler et ce sera pas du tout bien. Non, c'est plutôt adopter un style de vie. En fait, le repos de Dieu, pouvoir entrer et profiter dans le repos de Dieu, c'est plutôt adopter un nouveau style de vie. C'est se reconnecter à lui, maintenir vivant le dialogue intérieur, faire les choses avec sagesse et surtout les faire une à la fois. Je ne vous dis pas d'en faire moins. Je ne vous dis pas de contrôler plus. Je vous dis juste de faire mieux. Une chose à la fois, vous ferez mieux. Et si vous faites mieux, eh ben forcément, vous ferez plus.